Bienvenue sur Vibration, la seule radio où vous pouvez découvrir en version étendue les meilleures interviews. Bonne nuit avec nous sur Vibration.
Parce qu'il n'y a pas que les chats et les chiens qu'il faut protéger, on a interviewé Karine Grèce, fondatrice du Clos des Renardises qui se situe en Aquitaine. Comme son nom l'indique, c'est un lieu de protection pour les renards.
Alors, le Clos des Renardises, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2020, mais qui est pensée déjà depuis plusieurs années. Et en fait, au départ, je suis assistante vétérinaire de formation et d'expérience. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans en Belgique en tant qu'assistante véto. Et je suis arrivée en France parce que j'ai rencontré mon compagnon et j'ai bifurqué un petit peu de faune, on va dire, et plutôt que la faune domestique, je me suis intéressée à la faune sauvage parce que j'avais déjà une petite arrière-pensée et je m'en occupais déjà un peu en Belgique. Et j'ai un animal un peu totem, on va dire, qui est le renard roux. Et donc, j'ai fait de l'éco-volontariat en centre de soins où j'ai plus spécifiquement orienté mon attrait sur les renards roux qu'on accueillait au centre. Donc, centre de soins pour la faune sauvage. Et du coup, j'ai mûri l'idée, comme en France, j'ai constaté que le renard était un animal qui était pourchassé, mais qui bénéficiait d'un double statut qu'on ne connaît pas forcément en Belgique. Bon, il peut être un peu nuisible, mais il est plutôt gibier, mais on s'acharne pas autant. Donc, en France, on s'acharne quand même dessus. Il est déjà gibier et en plus, on le considère comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Je trouve que ça ne veut rien dire déjà en termes de biodiversité. Et en plus, il n'y a pas d'argumentaire pour réel. C'est basé sur des croyances, sur des traditions et sur absolument aucun argument scientifique. Donc j'ai voulu aider ce petit animal au nom de tous les autres aussi qui sont des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, plus particulièrement chez les petits carnivores autochtones. Et du coup, j'ai créé cette association d'abord pour favoriser l'étude, enfin pour s'intéresser à l'étude, le partage des connaissances et la préservation de cette espèce. Donc pour bien juger d'une espèce ou quelle qu'elle soit, il faut quand même la connaître parce qu'on ne peut pas baser une connaissance sur des croyances, sur des constats, oui, le fameux pilleur de poules alliées. Bon, ça fait des générations et des générations, des siècles que cette étiquette poursuit cet animal, ce pauvre animal, mais je pense que maintenant l'évolution doit aller dans tous les sens et surtout aussi en faveur de la nature. Et comme actuellement, en plus, ça prend de plus en plus d'ampleur, au niveau des mentalités, donc avec les restrictions au niveau des animaux dans les cirques, au niveau des zoos, on fait plus attention au bien-être animal. En animalerie, maintenant ça évolue dans le sens où on considère enfin l'animal comme être sensible. Bon, l'animal sauvage reste encore une catégorie, on va dire, qui est encore un peu pauvrette, dans le sens où c'est un animal. Bon, les animaux sauvages, ils sont tenus à l'écart, forcément, on les voit pas tous les jours, et ça reste nullius, qui n'appartient, donc ce qui veut dire qu'ils n'appartiennent à personne et qui sont appropriables par n'importe qui et qui peuvent être susceptibles d'être torturés. Donc ça laisse un petit peu carte blanche aux gens en sachant que si torturent ces animaux ou s'ils les chassent, voilà, c'est de la faune sauvage et ils ne sont pas dans la loi protégés au sens strict comme le sont maintenant les animaux domestiques et les animaux familiers. Donc j'ai développé l'idée de faire connaître ces animaux-là, donc le renard principalement, pour le remettre à sa juste place bioécologique et pas qu'on continue à le considérer comme le pilleur de poules alliées, celui qui véhicule la rage et d'autres maladies, le pouilleux, la sale bête, enfin bon, pour essayer de faire évoluer les mentalités, mais pour apprendre à pour protéger, il faut comprendre l'animal et pour le comprendre, il faut le connaître. Donc c'est un peu notre but. Et parallèlement à ce côté plus théorique, pédagogique mais plus théorique, j'ai eu l'idée de créer un refuge. Il en existe déjà un petit refuge dans le nord de la France, un refuge pour renards qui sont contraints à la captivité définitive. Donc, on n'est pas un centre de soins, on n'est pas un parc animalier, mais on recueille des animaux qui seraient incapables de survivre à l'état sauvage, donc qui auraient perdu cette autonomie qui est indispensable à leur survie à l'état sauvage. Donc, ils proviendraient essentiellement de centres de soins. Bon, à l'échelle d'un centre en France, c'est pas très significatif. Il y en a pas, on va pas en avoir des tas, mais au niveau de plusieurs centres, et notamment de la DDT, de la police de l'environnement, qui eux pratiquent des saisies chez des gens qui détiennent des animaux illégalement, parce qu'il faut beaucoup de certificats, d'autorisation. C'est très encadré de détenir un animal sauvage. Et donc, il y a des animaux qui sont imprégnés et d'autres qui sont handicapés. Donc, ça dépend. Donc, centre de soins faune sauvage, on aurait des animaux qui auraient perdu leur aptitude par un handicap, des séquelles, en fait, en quelque sorte. Bon, on a une éthique, hein. On a étudié une éthique très profondément, bien ancrée sur le bien-être de l'animal. Donc, on n'est pas là pour garder des animaux grabataires. On est là pour donner une deuxième chance à des animaux qui ont choisi de vivre, qui ont toutes les capacités, on va dire, de bien vivre, mais qui malheureusement ont un petit handicap, soit moteur, soit neurologique, qui les empêche d'être à 100% dans la nature et donc de recouvrer leur vie sauvage. D'autre part, en ce qui concerne les saisies, ce seront des animaux qui seront tellement imprégnés qu'ils peuvent pas se débrouiller tout seuls, ou même s'ils pouvaient un peu se débrouiller, ils seraient trop enclins à retourner vers l'être humain. Et donc là, ce serait de toute façon le condamner à terme à être abattu ou à être, etc.
Et qu'on le précise, c'est un lieu qui n'est pas ouvert au public, hein.
C'est un havre de paix, c'est un sanctuaire pour des animaux qui récupèrent un peu. Et ce sont des animaux essentiellement qui ont des séquelles d'activité humaine, hein. Ce sont des, parce que les animaux qui meurent de leur propre mort naturelle, donc de maladie ou de vieillesse, s'ils meurent de vieillesse en milieu naturel, ce qui est très rare, on ne les retrouve pas, ceux-là. Ils vont mourir au milieu des bois. Nous, ce qu'on va récupérer, ce sont des animaux qui auront été recueillis par des gens qui les auront conduits en centre de soins à la faune sauvage, et des animaux qui auront été saisis, comme je l'ai déjà dit. Mais voilà, on ne fait pas d'élevage non plus. Ces animaux vont être stérilisés, identifiés, parce que ça relève d'un protocole très strict au niveau législatif. Et ils seront déparasités, donc vermifugés, ils seront vaccinés, donc et on ne fait pas de reproduction du tout. Il n'est pas du tout question de relâcher des animaux dans la nature ni d'en faire un élevage. C'est pas le but du tout. C'est vraiment d'offrir une seconde vie et par là sensibiliser le public, déjà pour connaître l'espèce, pour qu'elle se rende compte que un renard, ça n'a pas la taille d'un loup, que c'est pas non plus le vecteur de la rage, parce que la rage est éradiquée en France, la rage vulpine est éradiquée depuis 2001 officiellement, que voilà, que ce n'est pas le monstre dont on en fait parfois l'écho, mais c'est un animal qui est très utile aussi et pour la biodiversité, mais aussi pour les services systémiques qu'il rend aux agriculteurs bio ou pas bio d'ailleurs, parce que il se nourrit à 75% de petits rongeurs qui eux sont des déprédateurs de culture par exemple, et ils empêchent la prolifération. Alors on explique aussi que les petits prédateurs comme le renard ne pullulent pas, parce que un prédateur se reproduit en fonction des ressources alimentaires de son milieu. Donc quand il n'y a pas assez de nourriture, il y a des années où la renarde, soit elle ne va pas être gestante, soit elle aura très peu de petits, et soit les petits vont même pas survivre. Et donc, ce sont des espèces, les petits carnivores, les petits prédateurs, qui se régulent tout à fait naturellement.
Je vous rappelle le nom de l'association, le Clos des Renardises, situé en Aquitaine. I'm no good at being alone. Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing?
Sur Vibration, nous passons les nuits ensemble. Je suis une intelligence artificielle et on découvre ensemble nos meilleurs reportages. Comme celui-ci.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Portrait Citoyen, un podcast de Vibration pour vous faire découvrir femmes et hommes politiques engagés dans votre région au travers de leurs portraits. Aujourd'hui, notre invité est Marc Fleuret, président du Conseil départemental de l'Indre. Bonjour.
Bonjour.
Alors avant toute chose, Marc Fleuret, est-ce que vous pouvez tout simplement nous expliquer en quoi consiste le poste de président du département ?
Bah écoutez, président de département, c'est être responsable de l'exécutif départemental sur les missions donc qui sont dévolues à la collectivité territoriale départementale. Alors plusieurs axes. La plus grosse partie, bien évidemment, ce sont les solidarités humaines au sein de la collectivité. Donc la gestion des personnes âgées au sein du département, des personnes handicapées à travers la maison départementale du handicap notamment, et puis également toutes les personnes qui sont au RSA et la gestion de l'insertion des personnes en recherche d'emploi et en difficulté sociale. Donc ça, c'est une des grosses parties. Et puis on a également la gestion des collèges et des structures pour le département. Ça représente 31 collèges. Où on doit gérer le bâti, tous les investissements et le personnel des restaurants scolaires au sein des collèges. On a toute la partie culturelle départementale et le sport, ainsi que tout ce qui est touristique au niveau du département. Et puis bien sûr, un des gros postes, les routes et le réseau routier départemental.
Et alors comment ça fonctionne concrètement ? C'est-à-dire que vous vous réunissez en conseil, il y a des personnes qui proposent des choses, vous passez par des votes ?
Effectivement. Donc pour nous, l'Assemblée départementale, on a sur le département 13 cantons et chaque canton a un binôme élu. Hein, c'est la particularité de l'élection départementale, c'est les citoyens élisent un binôme, un homme, une femme, donc pour les représenter au sein de l'Assemblée. Alors ensuite, de là se dégage une majorité. Il y a une élection, l'élection du président. Et ensuite, il y a, on va dire, une fois par trimestre, hein, un conseil départemental qui se réunit pour voter effectivement les orientations, hein, qu'elles soient budgétaires ou les événements à venir ou les investissements, comme fonctionne un conseil municipal, mais à l'échelle départementale. Et puis, après, évidemment, il y a une vie... la minorité a sa vie de groupe, et puis nous, on a notre vie de groupe au niveau de la majorité départementale, où évidemment, il y a des échanges pour mettre en place les projets que l'on peut avoir sur le territoire.
Alors vous avez été nommé président de l'Indre au mois de juillet l'année dernière. Avant ça, vous avez été conseiller départemental, justement, pendant plus de 6 ans. Même question, c'était quoi votre rôle à ce moment-là, concrètement ?
Alors, j'étais conseiller départemental sur le canton de Châteauroux 3, oui. Qui est une partie de Châteauroux. Il y a 3 cantons sur Châteauroux. Et j'avais, moi, comme mission la présidence de l'Agence de développement touristique de l'Indre. Donc, j'avais une mission qui portait sur tout ce qui était touristique au niveau du département. Donc, ça a été un travail passionnant qui m'a fait découvrir... l'ensemble des acteurs touristiques départementaux et même régionaux, puisqu'on travaillait avec la région également. Donc ça m'a permis d'avoir un vrai maillage sur le département, tant en termes de connaissances du patrimoine bâti de notre département que des hommes et des femmes qui le faisaient vivre.
Alors ça vous a fait découvrir certaines choses et du coup vous avez eu envie d'en découvrir encore plus puisque vous avez eu donc envie d'être président du département. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de vous présenter à la présidence du département de l'Indre ?
Alors pour tout vous dire, c'est un enchaînement de faits depuis que je fais de la politique que je ne contrôle pas toujours.
Ouais.
C'est-à-dire que lorsque j'ai arrêté ma carrière sur le plan sportif, je me suis retrouvé avec l'équipe de Gilles Averroux sur Château Métropole en tant que maire adjoint. Et donc en 2020, le maire de Déol avait donc souhaité arrêter donc son d'être maire de la commune et m'a proposé de lui succéder. Donc, le fait d'arriver au département de l'Indre en tant que président n'était pas à ce moment-là prévu en 2020.
D'accord.
Et contre toute attente, le président, mon prédécesseur du département, a souhaité arrêter son mandat en 2021 et un jour m'a fait venir dans son bureau et m'a dit « voilà, j'aimerais que ce soit toi qui prennes la tête de liste de notre majorité départementale ». Donc, c'est vrai que pour moi, ça a été… voilà, je réfléchis pour savoir si je me lançais et arrêter finalement l'aventure de la ville de Déol assez rapidement.
Oui, j'imagine qu'on ne décide pas juste du jour au lendemain, comme ça, sur un coup de tête, de devenir président d'un département.
C'est ça. Alors, je savais que c'était quelque chose qui correspondait à ma personnalité. J'avais envie, un jour, c'était une finalité pour moi d'essayer d'être élu à la tête de la présidence du département, mais je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite. Voilà.
Alors, vous avez parlé un petit peu de votre carrière sportive. On va y revenir un peu plus tard, simplement. Avant ça, je voudrais revenir sur le conseil départemental des collégiens que le département a lancé donc récemment, dont les élections se dérouleront les 16 et 17 novembre prochains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est?
Oui, alors, ça, c'était vraiment une volonté de l'équipe, de la majorité départementale, lors de la campagne. On s'était engagé à mettre en place ce conseil départemental des collégiens. L'idée, c'est que on s'aperçoit qu'on a une structure qui finalement est très peu connue des habitants du département, c'est-à-dire qu'ils se rendent pas compte qu'on intervient à pratiquement tous les échelons de leur vie. Et il nous semblait qu'un des moyens de nous faire connaître et de faire connaître l'action, c'est de travailler sur les jeunes. La création de cette structure allait permettre, un, de développer notre notoriété auprès du grand public, et surtout, deux, d'impliquer les jeunes dans la vie de leur département à travers cette instance. Et puis, nous aussi, peut-être que l'on porte un regard un peu plus jeune, un peu plus dynamique sur notre collectivité qui, finalement, est représentée par des gens qui ont un certain passé politique, donc déjà qui sont là avec un âge avancé.
Oui, c'est d'avoir un regard un peu plus neuf, si on peut dire.
Voilà, et c'était vraiment de défraîchir vraiment l'image que l'on pouvait avoir au niveau de département, et puis surtout nous booster. Moi, j'ai toujours tendance à dire que les jeunes, ils nous poussent, et nous amènent du dynamisme, et je pense que ça, c'est extrêmement important. Et cet équilibre entre le fait d'avoir des gens de maturité qui nous permettent finalement de peser les choses et de prendre de la hauteur, c'est important d'avoir aussi des jeunes qui nous poussent dans nos projets et puis qui nous disent, nous orientent vers des choses à laquelle on n'aurait pas forcément pensé. Voilà. Donc je pense que ce lien intergénérationnel, il est extrêmement important et valorisant, et à mon avis, il amène vraiment pour notre territoire une plus-value, une vraie plus-value.
Donc l'objectif, si j'ai bien compris, en tout cas le principe, c'est qu'effectivement le conseil départemental, ça peut paraître assez abstrait, et ça pour la population de manière générale, l'objectif c'est vraiment de le rendre concret et de faire comprendre aux personnes que ça a une réelle importance et un réel impact dans leur vie.
Effectivement, et quand moi, depuis que je suis président, quand j'échange avec les Indriens, souvent, quand je leur dis à le département, voyez cette réalisation dans votre commune, nous on l'a fortement financée à hauteur de 30%, 25%, 40% parfois. Ils n'en ont pas forcément conscience, et ça leur fait comprendre que finalement, on est le premier investisseur sur les communes. Tout à l'heure, dans l'émission, j'ai oublié de vous parler de ça, c'est qu'on aide les communes dans leurs projets à travers nos subventions, et on a des fonds ouverts départementaux, hein, on est un des départements de France, un des rares départements de France à avoir des fonds ouverts qui permet de traiter autant de dossiers qui nous arrivent, autant de dossiers financés. Donc ça, c'est pour les maires, c'est extrêmement important, et donc ça impacte directement les habitants. Et ça, ils n'en ont pas toujours conscience. C'est important de communiquer là-dessus.
Alors, vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure, vous êtes en ancien sportif, puisque vous avez été auparavant judoka de haut niveau. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, après le judo, de vous engager en politique?
Alors, la politique, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. J'allais dire que ce que j'aime par-dessus tout, c'est servir les autres et m'impliquer pour les autres. Et la politique, on a ce lien avec... avec l'humain qui est extrêmement présent. Ça, c'est la première des choses. Et puis aussi l'envie de m'impliquer pour mon département et finalement, après avoir baroudé un peu dans le monde entier à travers le sport, j'avais envie de me poser et surtout de m'investir pour l'Indre, mon département d'origine, et puis le mettre en avant parce que j'estimais qu'il n'était pas toujours mis à la place qu'il devait avoir, notamment aux yeux des Ardéens qui sous-estiment un petit peu leur département par rapport aux autres départements de France. C'est-à-dire qu'on souvent, on avait tendance à dire que c'était mieux ailleurs. Et on se rend compte que les temps changent et que les Ardéens se rendent compte de la valeur de notre patrimoine, de la valeur de tout ce qui se passe ici. Et ils sont en train de devenir les vrais ambassadeurs, ce qui, à mon avis, est la base.
Est-ce que ça fait partie des difficultés que vous avez pu rencontrer lors de, comment dire, quand vous êtes passé du sportif à l'homme politique? Est-ce que ça fait partie des difficultés que vous avez pu rencontrer qui étaient nouvelles pour vous, finalement, de convaincre les gens qu'on vit dans un endroit qui est formidable?
Oui, alors ça fait partie, effectivement, notamment à travers mes missions quand j'étais en charge du tourisme. C'est vrai que ça a été une de mes premières surprises. Je raconte souvent cette anecdote où on avait fait un film promotionnel sur l'Indre de très grande qualité qui était fait par une agence de communication de très haut niveau. Et les gens, quoi, la première fois, ils ont vu cette vidéo, ils ont dit « Ah, c'est bien vendu, c'est pas l'Indre ». C'était vraiment que des images de l'Indre qui avaient sous les yeux. Et cette prise de conscience, elle est venue au fil des années. Et aujourd'hui, je peux vous dire, c'est une de mes satisfactions personnelles, c'est que les Indriens sont fiers de leur département et je pense qu'à partir du moment où les habitants sont fiers de leur territoire, on peut commencer à pouvoir le développer. Ça, c'est extrêmement important.
Et c'est quoi les autres difficultés qu'on rencontre quand on est quelqu'un qui vient de la société civile et qu'on s'engage, entre guillemets, du jour au lendemain en politique et qu'on a un poste, qu'on est élu?
J'ai eu la chance, finalement, ce passé sportif fait que même encore aujourd'hui, les gens me voient peut-être plus comme un sportif et quelqu'un qui est proche du terrain, comme en plus je suis un élu de terrain. Donc, j'ai pas cette barrière entre le fait d'être président et les habitants. Moi, les habitants, j'allais dire qu'il y a 80% des habitants qui m'appellent Marc. Et c'est ce que je souhaite. Ça n'empêche pas le respect, tout ça. Des uns envers les autres d'ailleurs, et ça permet de casser un peu les codes. En tout cas, cette proximité, j'y tiens, et je pense que ça, c'est le monde sportif dans lequel j'officiais avant m'a beaucoup aidé à ce niveau-là, et ça simplifie les rapports. À la fois, quand on a des choses à se dire, on se les dit droit dans les yeux et on gagne du temps. Ça permet de crever les abcès tout de suite. Et puis, je pense que une des choses qui m'apporte le plus, c'est finalement ne pas envoyer du rêve à des fins politiques aux gens, mais de savoir dire non. Parce que je pense que quand on est responsable politique, la première des choses à apprendre, c'est de savoir dire non, en expliquant pourquoi on dit non, et ne pas faire croire aux gens les choses, parce que la déception, elle est pire dans un second temps. Et ça, j'allais dire mon côté franc et direct que le sport m'a inculqué, je m'en sers beaucoup en politique.
Et ça plaît, j'imagine.
Écoutez, des sports qu'on a fait sur les dernières élections, je pense que oui, ça plaît. Maintenant, c'est cette proximité, il faut la maintenir. Et moi, je tiens beaucoup à être sur le terrain, à être avec les gens dans tous les secteurs d'activité d'ailleurs. Et puis, ça permet de découvrir les pépites au cœur de notre département. Il y a encore quelques jours, je découvrais une société à Busançais qui vend du matériel, des outils dans le monde entier. Et voilà, c'est au cœur de notre département avec des outils très modernes. Et je pense que nous, les personnalités politiques locales, quand on connaît bien notre département, nos acteurs, on peut mieux en parler, on peut mieux les défendre lorsqu'on en a besoin. Donc cette proximité et ce travail de terrain, il est pour moi essentiel.
Alors, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, vous avez une carrière de judoka, à laquelle vous avez dû mettre un terme en raison de plusieurs blessures. Puis ensuite, vous êtes tourné donc vers la Fédération Française Handisport de Judo en tant qu'entraîneur, puis directeur technique. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes tourné précisément vers le handisport?
Alors, c'est une rencontre. Lorsque j'étais en professeur, je passais mon professorat de judo, il y avait l'option judo et personnes handicapées, ce qui était à l'époque la seule fédération qui proposait cette formation spécifique sur le handicap. Et comme moi, j'étais à Orléans, au centre de formation d'Orléans, cette option, elle faisait partie intégrale de la formation générale. Et donc là, lors de cette formation, j'ai découvert un jeune judoka, petit garçon non-voyant qui avait 6 ans. Je me rappelle encore son prénom, il s'appelait Virgile. Et il m'a bluffé et je me suis dit, c'est incroyable tout ce qu'il arrive à faire. Et lorsque je suis arrivé en région parisienne, sur mon premier poste, bah, j'ai tout de suite contacté la Fédération Handisport en disant, voilà, moi, je souhaite vraiment m'impliquer dans le secteur du handicap. Et puis après, j'ai rencontré un autre judoka, Bruno Flageul, qui était un non-voyant qui voulait passer son deuxième dan en judo. Mais les katas, donc les enchaînements techniques que la fédération proposait n'étaient pas adaptés pour les non-voyants. On a créé une méthode pour qu'ils puissent le faire. Et puis voilà, j'ai mis le pied dans l'engrenage. Et puis j'ai quand il y a eu l'entraîneur national qui a arrêté ses fonctions, on était plusieurs et moi j'étais le plus jeune. Je pense que ça, à l'époque, je précise bien à l'époque, j'étais le plus jeune. Et donc ça a peut-être pesé dans la balance pour que la fédération a misé sur le long terme. J'y ai passé 20 ans de ma vie, donc c'était peut-être pas une mauvaise idée de leur part. Et puis en tout cas, moi ça m'a forgé.
Et justement, est-ce que c'est une expérience qui aujourd'hui vous apporte encore dans votre carrière politique?
Ça m'apporte au quotidien. D'abord parce que on sait très bien que le problème du handicap, souvent on parle d'intégrer les personnes handicapées, mais moi je dirais plutôt qu'il faut intégrer les valides. J'emploie souvent ce terme-là. C'est-à-dire que le regard qu'on a sur le handicap, il faut qu'on arrive à le changer en France, dans les pays anglo-saxons, c'est pas du tout ça. Les personnes handicapées font partie intégrante de la société. Et en France, on a encore un vrai décalage, même si au fil du temps, il est en train de s'amenuiser. Mais ce travail-là et ce regard-là me permet aussi de jamais voir les choses en frontal, mais de toujours prendre de la hauteur et d'analyser bien tout le contexte extérieur. Donc ça, oui, ça m'a beaucoup servi. Et puis, c'est un amour que j'ai pour les gens. Je pense que à travers le handicap, ça a effectivement... il a été renforcé pendant toutes ces années.
Et justement, vous en parliez un petit peu, c'est-à-dire que l'accès aux personnes handicapées pour le sport, c'est encore quelque chose qu'il faut toujours encore travailler. Aujourd'hui, on est encore en retard un peu là-dessus, vous pensez?
On a fait des grands bonds en avant. Hein, au niveau du sport, le phénomène déclencheur a été signé. Là, il y a eu une vraie différence. Moi, je vous rappelle, pour les Jeux d'Atlanta, on est arrivé, ils avaient... À l'intérieur du village olympique, ça peut paraître fou, mais ils avaient démonté tout le côté festif, c'est-à-dire qui est mis en place pour les athlètes. Tout ça avait été démonté quand les Paralympiques arrivaient. Et puis à Sydney, on a eu les mêmes structures avec les mêmes conditions. Et puis, j'allais dire qu'à partir de Pékin et Londres, les salles étaient remplies de spectateurs parce qu'il y a un vrai intérêt sportif. Donc ce regard, il est en train de changer. Et puis là, on voit bien au niveau de Paris 2024, avec des personnes handicapées qui ont leur propre journée maintenant paralympique. Ben voilà, les choses évoluent. Et puis, elles évoluent aussi sur le quotidien des personnes handicapées qui, maintenant, sont intégrées dans les réflexions quand on construit des bâtiments, etc. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Alors, on parle beaucoup d'inclusion. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut voir toujours aussi, comme je disais tout à l'heure, avec pas mal de recul, parce qu'il ne faut pas faire de l'inclusion à tout prix, parce que l'inclusion peut aussi provoquer l'isolement, et il faut être très modéré dans toutes ces implications pour les personnes handicapées, et il faut que ça soit fait en tout état de cause, en les incluant dans les réflexions. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me sert au quotidien, parce qu'on le fait dans tous les secteurs d'activité au niveau des départements. Quand on a un projet d'investissement, on fait venir les gens qui vont utiliser l'infrastructure par la suite pour les impliquer dans la réflexion de ce qu'on va mettre en place.
Vous évoquez les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques également. J'imagine que c'est pour vous, ancien athlète, ancien entraîneur, une certaine fierté de voir les JO arriver à Paris et en France.
Effectivement. Alors, j'allais dire que j'ai d'abord le fait de voir les Jeux arriver ici, c'est quelque chose d'extraordinaire pour tous les athlètes et tout le mouvement sportif français. On parlait tout à l'heure des personnes handicapées, mais je pense que ça va être un vrai déclencheur sur la pratique sportive nationale, tant au niveau des personnes handicapées que sur le plan du sport scolaire, etc., et la place du sport dans la société. Et puis la fierté, puisque on a les épreuves de tir qui vont avoir lieu à Châteauroux, au niveau des Jeux. Donc c'est vrai qu'en tant que président du département, si on m'avait dit que j'accueillerais les épreuves olympiques sur le département, j'aurais signé tout de suite. Voilà. Donc oui, c'est une vraie satisfaction, et puis on va tout faire pour que ça se passe au mieux.
Alors il y a une petite question d'actualité, c'est un club de la région Centre-Val-de-Loire qui fait l'actualité en ce moment, le club Avoine, club qui fournit la moitié des gymnastes de l'équipe de France, qui est un petit peu en conflit avec sa fédération en ce moment. La Fédé veut envoyer tous les gymnastes à l'INSEP à Paris, ce que refusent de faire les gymnastes évidemment, mais qui voient par conséquent du coup leurs aides financières un peu coupées. Certaines ont même décidé de changer de nationalité à cause de ça. Quel regard vous portez sur cette affaire à seulement 2 ans des Jeux Olympiques aujourd'hui?
Alors, sur cette affaire, moi, c'est quelque chose que je peux comprendre parce que l'INSEP, c'est une grosse machine. Et souvent, les athlètes se retrouvent mieux dans, j'allais dire, le cocon de leur club. Donc, moi, ça, je peux l'entendre. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention. La performance, effectivement, doit être l'objectif majeur de tout ce qu'on va mettre en place. Maintenant, je sais que au niveau de l'INSEP, c'est un judoka qui travaille beaucoup sur le sujet, en l'occurrence Fabien Canut. Mais je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert et intelligent. Donc, je pense que des accords vont être trouvés. Maintenant, c'est vrai que quand on a des jeux qui ont lieu sur un territoire, on se doit d'organiser les choses pour que ça soit un vrai tremplin pour l'organisation sportive nationale. Et c'est vrai que finalement, le fait que le sport soit vraiment mis en avant sur ces années avant les Jeux nous fait découvrir qu'il y a finalement des problématiques comme celles que vous venez d'évoquer qui existent, hein, et qu'on doit solutionner. Alors, j'allais dire, pas que pour les Jeux, on doit solutionner pour l'avenir du sport en France et de la pratique de haut niveau. Et la pratique de haut niveau, c'est pas quelque chose avec une seule règle qui peut faire fonctionner dans tous les secteurs. Et il y a des disciplines qui ont un fonctionnement qui leur est propre et qui ont du mal à se mettre dans le moule global. Et ça, je pense qu'il faut qu'on ait vraiment en tête la spécificité de certaines disciplines qui ne peuvent pas être dans un moule global. Bon, moi, le monde de la gymnastique, c'est pas un monde que je connais précisément. En tout cas, je pense que ça mérite d'être entendu et les solutions doivent être trouvées avec les différents acteurs pour pas arriver à une solution de blocage, surtout, comme vous le disiez, à quelques mois de l'accueil des Jeux. Ça serait quand même incroyable. Mais moi, je garde plutôt en tête les exemples positifs du développement de la pratique sportive grâce aux Jeux, le développement des investissements dans les territoires ruraux comme les autres, comme les nôtres, l'Indre et le département de France en 2021 qui a le plus investi dans le secteur du sport au ratio par habitant. Et la pratique sportive sur les territoires ruraux, elle est extrêmement importante pour les jeunes qui habitent dans les plus petites communes de notre département. Ils doivent avoir le même accès au sport que ceux qui habitent sur Château Métropole. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui est valable d'ailleurs dans tout ce qui est structure culturelle, etc. Il faut qu'on ait cet accès au sport, à la culture, qui soit équitable dans les territoires. Et je pense que ça, les Jeux vont l'amener, vont aider pour développer cette proximité.
J'ai une dernière question à vous poser, Marc Fleuret, peut-être la plus difficile. Si vous deviez dresser votre portrait citoyen en seulement 3 mots, lesquels choisiriez-vous?
Ça c'est vache comme question. Je dirais l'humain. Ça c'est important. La différence, parce que à travers le handicap, j'ai beaucoup vécu et beaucoup souffert de la différence. La différence que l'on fait entre les gens parce qu'ils sont pas dans le même moule que les autres, donc cette différence, donc la gomie. Et puis le troisième, ça serait la joie de vivre.
Très bien, bah, parfait. Merci beaucoup Marc Fleuret d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du conseil départemental de l'Indre, hein, et quant à nous, eh bien, on se retrouve très prochainement dans Portrait citoyen sur Vibration. À très vite. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate, baby. I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue, got me thinking about you. I'm just trying to dive right in. Wanna spend tonight like the last night of our lives, chasing all the love.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur Vibration, on vous fait découvrir le meilleur de nos chroniques.
Les réseaux sociaux ne sont toujours pas bienveillants, notamment pour les plus jeunes. C'est face à cette problématique qu'on avait interviewé en 2001 Guillaume Villain, fondateur de Kiligi. Ça s'écrit K-I-L-I-G-I, une application sociale pour faire du bien à nos émotions.
Donc j'ai commencé le projet, c'était en fin avril. L'application, on a sorti vraiment un MVP hyper basique pour voir en fait si les jeunes jouaient le jeu de partager leurs émotions, parce que c'est quand même une thématique un peu touchy, et donc on avait un peu peur par rapport aux interviews qu'on avait recueillies. En fait, on a eu 500 questionnaires en début juin, où ils disaient 90% on va partager nos émotions et pas de soucis. Mais entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, enfin, il y a toujours un décalage, et donc on avait un peu peur. Et finalement, en fait, il n'y avait pas de décalage. Donc, en tout cas, les 15-20, ils n'ont aucun souci à partager. Au plus on va monter dans les âges, au plus on va tomber en fait sur des posts en mode anonyme, parce qu'ils n'ont pas envie d'être connus, parce que le sujet est un peu tendu. Donc là, ils ont plutôt tendance à partir sur le mode anonyme.
Alors, expliquez-moi du coup, qu'est-ce que Kiligi ?
Oui, en fait, ça, si on lit en français, ça ferait Kiligi, mais ça vient de Kilig, c'est un mot des Philippines, qui fait en fait, c'est les papillons dans le ventre qu'on a en fait, le, si si on tombe amoureux, la première fois qu'on voit la Tour Eiffel. Voilà, donc on voulait une marque aussi qui soit émotionnelle. Comment on a démarré ce projet-là? L'idée, c'était vraiment donc d'offrir en fait une plateforme qui donne du soutien aux jeunes et une safe place en fait où ils peuvent vraiment partager sans être jugés, parce que c'est ce qui est un peu problématique sur les réseaux sociaux actuels avec tous les haters, le harcèlement et j'en passe. Donc on a commencé sous cet axe-là. Moi en fait je suis aussi papa de deux ados, donc de Ninon qui a 16 et Tom qui a 14, qui revenait avec des histoires un peu inquiétantes, des transports en commun, des amis de la classe. Puis j'ai fait aussi 20 années dans l'enseignement, donc j'ai aussi un peu le suivi en fait de ce qui se passait déjà dans les classes et dans la tête des jeunes. Et puis voilà, donc en avril en fait j'ai attaqué le sujet en me disant bon ben on voit des stats passer dans les médias, qu'en est-il réellement? Donc j'ai un peu refouillé ces stats, et en fait avant la crise sanitaire on avait un adolescent sur quatre qui était en situation de mal-être, et ça c'est les stats de l'OMS, et ça c'était avant la pandémie. Sauf qu'en fait là elle a aggravé, elle a fait exploser tous les chiffres, et donc on est tombé sur les centres de psychiatrie qui étaient en saturation, les centres de suicide qui ont augmenté, qui ont été multipliés presque par deux, et ça touchait principalement les filles en fait, plus que les garçons. Elle était réellement impactée par rapport à ça. Et donc on a fouillé les solutions existantes, ben voilà, les lignes d'écoute, et on a un peu aussi regardé les freins. Et en fait, les lignes d'écoute, pour avoir discuté avec des parents endeuillés, donc vraiment, j'ai discuté avec trois parents qui ont perdu leur fille, en fait, suite à un suicide, et ils me disaient, en fait, ils n'en parlaient pas aux autres adultes, ils n'ont pas sonné aux lignes d'écoute, ils n'ont pas non plus été dans une asso parce que ils avaient peur de mentir par rapport à l'âge. Donc on a regardé à chaque fois, en fait, qu'est-ce qui existe et quels étaient les freins. Les lignes, c'est la timidité, parce que ils n'osent pas parler, en fait, en direct. Les forums d'entraide, c'est des outils un peu vieillissants, et donc il y a un problème d'instantanéité parce que en fait c'est modéré, mais du coup en fait ils vont avoir une réponse dans les 48 heures. Pour les jeunes c'est juste beaucoup trop, ils sont assez pressés. Les assos, ils doivent mentir, soit aller après les cours ou pendant les cours, et donc c'est un peu problématique pour eux, sauf s'ils vont voir l'infirmière de l'école ou des choses comme ça, ou pour les UNIF, pareil, il y a des services, mais ils vont pas forcément. Et les pros de la santé mentale, c'est un problème de coût, ou alors un problème d'avancée en fait mentale par rapport à la santé mentale. Et donc, il y a certains parents qui se disent, mon enfant va pas aller chez un psy, c'est pour les fous, etc. Et donc là, c'est plutôt de l'éducation à la santé mentale qu'il faudrait faire. Donc, en regroupant en fait toutes ces infos, que ce soit des stats ou des solutions existantes, on se dit, il faut faire quelque chose qui va être dans leur code, et leur code, c'est les réseaux sociaux.
Et du coup, comment ça fonctionne exactement, Kilegi?
Comment ça fonctionne? Donc, c'est assez simple. En fait, on crée un post en disant comment je me sens globalement. Donc, on vient mettre l'humeur en mode météo. Ensuite, on vient donner son émotion précise ou un état d'âme et un sentiment. Donc, il y a toute une liste. Ils peuvent choisir si je suis joyeux ou si je suis dévasté. Et ensuite, en fait, on sélectionne son besoin. Donc, l'idée, c'était vraiment, et ça, c'est ce qui a été validé par les pros de la santé mentale avant le développement, c'était de faire quelque chose qui fasse du bien. Et donc, là, ils choisissent leur besoin, de quoi j'ai besoin pour aller mieux, si c'est de discuter, d'écouter de la musique, de me rappeler, de structurer mes idées, ainsi de suite. Puis, ils vont sélectionner la thématique sur laquelle ils sont en train de parler. Donc, si c'est l'école, le travail, la sexualité, les vacances par exemple, et puis ils font une petite phrase pour expliquer leur situation. Ils sélectionnent à qui ils vont partager, donc soit on va partager en mode public, soit on va partager à sa tribu, donc ce sera plutôt ses amis réels ou les amis qu'on s'est fait via la plateforme, ou soit on partage en intime, donc c'est juste pour soi, c'est vraiment en mode journal intime. Et on a aussi la partie incognito, donc là c'est plutôt sur les thématiques tendues. Et donc, si vous voulez, on a un switch entre notre compte avec le nom-prénom, et le compte, en fait, est dédoublé avec un pseudo, ce qui permet, par exemple, d'avoir ses amis et de parler de thématiques légères en disant, j'ai réussi mon permis de conduire, ou j'ai raté tel examen. Mais si je me suis disputé 6 fois avec ma petite copine, je vais pas forcément tout le temps raconter ma vie. J'ai pas forcément envie de la raconter ma vie. Et donc là, je vais passer en mode anonyme, et là, c'est le pseudo qui sera poussé, et donc la communauté va pouvoir aider, donner, apporter du soutien, des félicitations, des encouragements, des conseils, ça dépend selon la situation.
Et actuellement, il y a combien d'utilisateurs du coup ?
Là, en fait, on vient de passer, je crois que c'était le 2 ou 3 janvier, on vient de passer les 10 000 installations. Au niveau poste, ça varie de, ça dépend en fait un peu les jours, mais voilà, on fait entre 200 et 1000 postes par jour, quelque chose comme ça. Et au niveau commentaire, c'est presque fois 7, fois 8. Donc, ça veut dire qu'il y a une moyenne de 7 commentaires par poste.
Et du coup, c'est France et Belgique, c'est ça ?
Oui, on a France, Belgique, Canada, et puis après, c'est, en fait, on a vraiment mondial le francophone, mais c'est vraiment la France qui a le plus gros pourcentage pour l'instant, bah parce que le bouche à oreille fonctionne mieux sur la France pour l'instant, et la presse aussi. On a eu un peu de presse aussi en Belgique. Ici, on commence en fait la presse côté France.
Je vous rappelle le nom de ce réseau social bienveillant, particulièrement pour les jeunes, Kiligi, qui s'écrit K-I-L-I-G-I. Vibration.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur Vibration, on vous fait découvrir le meilleur de nos interviews.
Pour éviter que les personnes handicapées soient victimes d'arnaques bancaires, Julien Delamorte a eu l'idée de créer une carte de paiement adaptée pour eux. Ça s'appelle Handsome. On a interviewé Julien Delamorte.
Handsome, c'est une fintech qui a pour vocation de rendre tous les produits et les services bancaires accessibles aux personnes en situation de handicap. Et aussi aux seniors. Et donc, on a commencé à travailler par une première typologie de handicap qui est la déficience visuelle en créant une carte de paiement connectée qui est connectée au smartphone du porteur de la carte afin de rendre les paiements accessibles. Puisque 9 déficients visuels sur 10 ont déjà été victimes d'une fraude, arnaque ou erreur lors d'un paiement chez son commerçant. Et donc, nous, on a fait cette carte de paiement connectée pour que le déficient visuel puisse enfin entendre tout ce que nous, on peut lire sur le terminal de paiement électronique. Ainsi, dès qu'il insère carte dans le TPE, ça se connecte automatiquement avec le smartphone, et le smartphone va prendre le relais du TPE pour informer toutes les informations du montant de la transaction en cours, acceptée, refusée, si le code PIN est bon ou faux.
Alors attendez, je ne comprends pas exactement comment ça marche. C'est un boîtier qu'on met sur son téléphone et qui est relié à la carte bleue, je ne comprends pas, expliquez-moi un petit peu.
Non, il n'y a pas de boîtier supplémentaire, c'est vraiment une carte de paiement innovante qui est connecté au smartphone. Et ça va permettre aussi à vous et moi, si par exemple on ne parle pas le mandarin, si on est en voyage en Chine, de pouvoir payer sur un TPE chinois et d'avoir toute la traduction en français sur son smartphone.
Vous nous donniez un chiffre de fraude qui est assez hallucinant pour les personnes handicapées, mais c'est quoi les types de fraudes dont ils sont victimes par rapport à leur carte bancaire?
Le risque de fraude, il est lié à deux raisons. La première, c'est soit le commerçant fait surfacturer le paiement, en disant, au lieu que ça soit 15,90€, pour prendre l'exemple de la boulangerie, il le fait payer 18, 19 ou 20,90€. La deuxième chose de risque de fraude, d'erreur ou d'arnaque, c'est que le commerçant lui fait dire que le paiement n'est pas passé alors qu'il est réellement passé, et lui faire payer une deuxième fois, un autre montant ou le même montant.
Mais ça arrive souvent, ça, que des commerçants fassent ça?
9 déficients visuels sur 10 l'ont déjà été victimes à ce niveau-là. Après, ça peut être aussi beaucoup, pour ne pas non plus la faute sur tous les commerçants. Ça peut être lié aussi à des erreurs. Moi, non déficient visuel, j'ai déjà eu l'erreur dans un restaurant où on devait diviser la note par 4 et finalement, il avait fait payer la totalité de la note à chacun d'entre nous, en fait, sans qu'on regarde, en fait.
Alors, vous disiez que cette carte, elle sert pour les personnes handicapées, mais aussi les seniors, et c'est les mêmes services, c'est les mêmes paiements ou c'est différent?
Non, pas du tout. C'est toujours dans la même typologie de paiement. Chez son commerçant, pour que le senior, en fait, souvent, quand on devient senior, on a une déficience qui se perd. C'est-à-dire qu'on a soit une perte de l'audition, soit une perte de la vue, soit les deux en même temps, et ainsi de suite. Et c'est vraiment aussi qui est considéré comme une forme de handicap de façon moteur, dans le sens du moteur. Et donc, du coup, ça permet aussi aux seniors, alors pas les seniors en fin de vie, mais les débuts qui sont assez familiarisés avec la nouvelle technologie et les smartphones, de pouvoir maintenir leur autonomie le plus longtemps possible.
Mais du coup, comment ça marche? Comment on l'a, cette carte? Est-ce qu'il faut télécharger une application?
Alors, soit on se connecte en effet sur l'Apple Store et on demande l'application Handsome de compte inclusif, soit on va sur la landing page de How to be Handsome, soit Crédit Agricole, qui est notre partenaire en Normandie-Seine, vous pouvez la demander au Crédit Agricole de Normandie-Seine dans un premier temps, et puis pourquoi pas plus tard, tout Crédit Agricole et d'autres établissements.
Et côté grille tarifaire de la carte bancaire, on est à quel montant à peu près?
Ça sera les mêmes prix que ce que vous payez actuellement dans une banque. Savez-vous combien vous payez actuellement sur votre banque?
Alors, je dirais une trentaine d'euros par an, mais c'est peut-être plus en fait. Comme c'est par mois distillé, je ne suis pas sûr.
En général, la moyenne des Français, ça tourne autour des 14€, 15,90€. Nous, on sera à 9,90€ pour les mêmes prestations. 14,90€ par mois, vous payez en moyenne. Alors, il y en a qui vont payer 5,90, d'autres qui vont payer 19,90 en fonction de la carte. Mais si on prend une Visa premier, on dépasse largement les 12, 13, 14,90€ par mois. Et nous, on sera à 9,90€ par mois.
Je vous rappelle le nom de cette carte inclusive pour les personnes handicapées, mais aussi les seniors, Handsome. Donc, soit vous pouvez la télécharger sur les Apple Store ou Play Store, soit sinon, donc, il y a le site internet qui s'appelle howtobehandsome.fr.
Matin d'hiver sur le palier, tu rentres chez toi, le regard froid, les cheveux mouillés, tu ne t'expliqueras pas. J'ai embrassé tous tes défauts, j'ai fini par les trouver beaux. Le cri de ton cœur lui sonnait faux, comme les toutes premières compos. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps, dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Oh, oh, oh. Elle sort sans son parapluie. Jardin d'hiver, la fleur est fanée. Je ne saurais pas comment te plaire ni comment t'aimer. Je ne te reconnais pas. Pourquoi tous ces mystères? Mais dis-moi à quoi tu joues. Je vis sous le même toit qu'une étrangère qui s'éloigne jour après jour. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps. Dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Oh, oh, oh. Elle sort sans son parapluie. Madame se fout de tout, de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Madame se fout de tout, de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir. Des heures à se faire belle, mais blessée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Oh, 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 elle sort sans son parapluie. Oh, oh, elle sort sans son parapluie. Elle sort sans son parapluie. Elle sort sans son parapluie.
Vous rêvez de faire de la radio? Chaque vendredi, Vibration vous ouvre ses portes.
Salut Alban, salut Théo.
Alban et Théo vous accueillent dans l'équipe et vous donnent la parole.
Bonjour à tous.
Bonjour. Entre 9h et 10h, devenez le pote du vendredi et participez à l'émission Debout tout le monde sur Vibration.
Allez, debout tout le monde.
Pour participer à l'émission, inscrivez-vous dès maintenant sur vibration.fr.
Tell me the words I've forgotten, what we were fighting for. Staring right into the darkness through an empty open door. Can't put back what's been broken. Can't change the moment. We went too far. We're pulling. For no reason.